cette occasion de la première dédicace mondiale. Il m'a mis dans la catégorie de notre lecture. Je voulais solliciter votre éminence pour me parler, pour me permettre de parler du moment de cette lettre. De ne pas entrer dans la catégorie de notre lecture qui est très exigeante. Dans une autre lecture où vous naviguez entre deux eaux, vous devez donner normalement le coup de lire le livre. Si vous pénétrez trop à fond dans le livre, vous enlevez le goût au futur lecteur. Si vous n'en êtes pas assez, vous ne le pas. Non, moi j'ai choisi de parler justement de ce livre. En nous basant sur une chose qu'on dit chez nous, ici, chez les petits, il y en a qui disent que les gens que vous trouvez, qui pleurent autour d'un mort, parfois ne pleurent pas le mort. La plupart d'entre eux pleurent le mort. Je pense que cette assertion que les gens disent avec grande malignité, ça fait beaucoup pour les gens. Vous lisez un livre, et en fait, vous le lisez, chacun lit le livre à partir de sa propre position. Et on a tendance à mettre ses mots de texte. C'est un peu dans cette attitude-là que je vous partage, que je partage avec vous ma lecture du livre de Maltiber. Le très captivant opus de Maltiber est composé en réalité de deux parties complètement différentes, mais égales, à peu près 100 points par jour chacune. Une première partie qui relate la lutte héroïque de nous pour assurer leur survie à travers les manœuvres d'asservissement et d'assimilation de l'autorité islamo-peuple. En effet, écrit l'auteur, pour expliciter cela, à la page 27, d'après les patriarches nous que nous avons rencontrés, les pratiques génocidaires orchestrées contre les Roms pendant des décennies avec la complicité des pouvoirs publics sont monnaie courante. Cela s'est manifesté, entre autres, par les tentatives d'assimilation à travers le changement des patronymes et l'islamisation contraignante, le travail forcé, les enlèvements d'hommes, de femmes et de mineurs pour l'esclavage, la confiscation des biens, les injustices, les impôts illicites, les abus de pouvoir, l'interdiction de pratiquer les rites initiatiques, les sévices corporels et les humiliations publiques de tout ce qui résiste. Voilà le cœur de cet ouvrage et cette deuxième partie. La deuxième partie, le deuxième livre, c'est deux livres. La deuxième partie reconstitue à travers l'exégèse des adages, des proverbes et aphorismes, l'extraordinaire consistance de l'ontologie du peuple mboum, ses croyances, ses systèmes éducatifs, son organisation sociale, son économie, bref, l'essence civilisationnelle qu'il faut récupérer et fructifier. Ce livre m'a frappé sur deux aspects principaux, à savoir le contenu, naturellement, et aussi la méthode. Concernant le contenu, je suis dans la situation d'un voisin de palier qui, pendant longtemps, a entendu des bruits, des sons et perçu des actions dans la chambre d'à côté, se posant des questions qui restaient sans réponse, et qui, longtemps après, alors qu'il se trouve dans un autre cadre, à l'occasion enfin de comprendre certaines réalités qui ne faisaient que soupçonner la vie. En effet, j'ai passé 15 années de ma carrière universitaire à l'Université de Ngaoundéré, de 1982 à 1997. Comme tout premier fonctionnaire, j'ai l'habitude pour me vanter pour gâter les dirigeants de l'Europe pour le pays à l'Europe pour voir le premier décret qu'il a signé, Tesbih kurduğunda ise bir deyim var. Güzel deyim, benzer de yolu deyim. Onun yanı, onun benzer de kurduğun dizi var. Şey, bir papra, hem o korku, bozulmuş. Biz de geldi karşılar dedi. Dedim, sen de bunu deyim, sen katılır dedi. Korku, ne sekreter jeneral de bir üniversite. Donc d'abord comme secrétaire général du centre universitaire, puis directeur administratif et financier, puis encore directeur des œuvres universitaires. Donc 15 ans, mon intégration dans la localité me permettra de devenir conseiller municipal sur deux mandats, encore une fois, et secrétaire général de la section NPC de la ville. Bien que le cœur de l'ouvrage de Najibert se situe dans la région voisine du nord, la région de la Damawa où je vivais alors contenait aussi de nombreuses communautés mouvres et naturellement peuples, à partir desquelles nous pouvions observer de façon estompée ou feutrée les rapports tumultueux révélés dans le niveau de la vie de la Jibère. Les échos de vrais coupables nous parvenaient comme d'un autre monde, comme d'un autre âge. C'est pour cette raison que je parle de voisins de palier. Qu'est-ce que je disais à l'heure de le livre de Najibert m'apporte aujourd'hui et enfin des réponses à une compréhension et une compréhension claire des éléments sur lesquels nous ne faisons que conjecturer à l'époque. J'en éprouve comme une frayeur à rebours, n'ayant pas perçu toute la profondeur tragique de l'insoutenabilité de la situation dans les rumeurs de l'époque que nous prenons parfois à la légère. S'agissant de ce contenu, c'est-à-dire de la plaidoirie de Najibert, je peux bien dire d'autre que cette évocation est mouvante pour l'instant. Je ne peux surtout pas m'aventurer à prononcer un jugement, car ce livre est un appel à la reconnaissance de la vérité en vue de la réconciliation et pour la reprise de la prospérité. C'est donc maintenant que ce livre va commencer son existence et son influence. Et d'ailleurs, le coup que je vais lancer dans la salle en attendant, me permet de voir que sont accourus ici les principaux pères protagonistes, je ne dis pas antagonistes, mais protagonistes, qui vont sans doute commencer le travail salutaire d'un débat. L'allogène que je suis, camerounais, intéressé, doit seulement croiser les bras et ouvrir tout grand les yeux et ses oreilles. Je vais donc passer à mon second centre d'intérêt, à savoir la méthode utilisée par Najibert dans son ouvrage pour soutenir sa plaidoirie. Ici, je suis dans la posture de l'intellectuel militant de la Renaissance africaine. En effet, j'ai été frappé par la grande similitude qu'il y a entre le combat qu'engage Najibert pour le relèvement du notre monde de ses traumatismes et le combat que nous menons pour le relèvement de l'Afrique tout entière des traumatismes de l'esclavage et de la colonisation. Deux combats identiques à des échelles différentes. Mais alors que les panafricanistes que nous sommes se perdent parfois dans les incertitudes méthodologiques pour arriver à leur but, j'ai pu déceler avec joie dans l'opus de la vie de la Jibert quelques éléments clés sur ce thème que nous menons plus sûrement dans notre lutte recherchée. Ce sont ces clés que je vais partager avec vous, avec votre propre position. C'est pour ça que j'ai intitulé mon papier Les racines locales de la Renaissance africaine. C'est-à-dire que j'ai plutôt trouvé dans le livre de Najibert qui parle d'une localité, la méthode que nous devons utiliser pour traiter de toute la problématique de la fin de Renaissance.
La première de ces clés, c'est la transmission. Nadibert met un grand soin à montrer qu'il a reçu de façon authentique tout ce dont il parle. Voici ce qu'il en dit à la page 34. Le même jour, les orphelins désignèrent mon papa comme successeur de mon grand-père, avec la lourde responsabilité de veiller sur tout le village et sur l'éducation de tous les enfants. Il fut présenté solennellement comme nouveau chef de Bakana, Mbaye Bakana, en espérant que je prononce bien, en présence des patriarches du village, des chefs traditionnels des villages en dévoilant de tous les habitants et de nombreux visiteurs. Son père, qui a reçu donc la démolition, lui inculquera par la suite ces éléments qu'il considérera mis solidement dans sa mémoire. Mis donc de ce testament, Nadibert est officiellement mis en mission de conservation et de perpétuation. Il n'invente rien. Il complétera d'ailleurs ses connaissances par les petites enquêtes d'ordre personnel. J'insiste là-dessus, j'insiste sur le fait qu'il n'invente rien, on lui a transmis. C'est pour expliquer ma méfiance, comme on le pose souvent, vis-à-vis de certains héros, héros avec habileté, pour dire comme un vidéo, c'est une grève. Ma méfiance vis-à-vis de certains héros qui se lèvent comme des prophètes pour parler de la vie, sans nous présenter leur lettre de créance. Et il y en a beaucoup. La deuxième clé, j'ai qualifié pour donner 15 minutes, mais si on plus de temps, ce sera bon pareil. La deuxième clé que je relève du texte de l'imaginaire, c'est le testament, le titre de l'ouvrage. Je me suis demandé si quel était le genre littéraire. Je me posais la question à un éditeur, qui est un éditeur, un des préfets, n'est-ce pas, de la place. Quel est le genre littéraire? Ce n'est pas marqué. Habituellement, dans les livres, on écrit en bas, roman, théâtre ou poésie. Il n'y en a pas ici. Et l'imaginaire ne m'a pas donné de réponse. Il n'a pas donné de réponse à ma question. Et je me suis réjoui de son honnêteté. Ce livre, en effet, inaugure un genre nouveau que je suggère d'appeler désormais le genre testamentaire. Il serait bon et honnête que tous les Africains qui veulent parler de l'Afrique commencent par écrire le testament que lui ont légué ses propres aïeux. C'est d'ailleurs ce que Nadibert demande expressément, n'est-ce pas, à ses frères, lorsqu'il écrit en page 19, je cite, le but de l'ouvrage est aussi d'attirer l'attention des chercheurs et historiens qui nous disent, en général, et nous en particulier, sur l'impérieuse nécessité d'orienter leurs recherches dans la connaissance des peuples autochtones que les Islamiens peuvent appeler réellement les guerriers. La constitution de l'Afrique à laquelle rêvent les panafricains se fera par échafaudage pyramidal des testaments et non des déclarations globalisantes et intempestives. Si dans un mouchoir de terre de la dimension d'un département, des cohabitants peuvent et vont ne se réclament pas de la même identité culturelle. Comment voulez-vous que des personnes puissent pronostiquer imprudemment l'unité des milliers d'ennemis et des tribus de tout le continent africain? Tout d'un coup et tout d'un coup. Une autre clé de lecture de l'ouvrage de Nadibert, c'est le devoir de vérité. Il s'est donné le droit de vérité. La situation coloniale que vous avez imposée, c'est également que l'on vient appeler le devoir de violence. Dans le contexte national et camerounais, les communautés de la présence, c'est le devoir de vérité qui nous est fait. C'est au nom de ce devoir de vérité que Nadjibel a écrit ce livre sans concession. Il lève le voile sur les hypocrisies et le mutisme critique. Il pose dire que nous, c'est que beaucoup ont même peur de penser, il y en a qui ont tellement peur de. Et bien que d'y penser, Mais sa vérité salvatrice est orientée vers la réconciliation. La vérité est la médication incontournable pour cicatriser les traumatismes et espérer la réconciliation. Démarche magique que des leaders historiques et martyrs comme Martin Luther King, Mandela, Desmond Tutu, etc. ont mis à jour. Daniel est reconnaissé très longtemps. Si les Tutsis et les Hutus qui se sont entretués ont pu se réconcilier, c'est par la force thérapeutique du principe de vérité et de réconciliation. La réparation est possible après. En tout cas, la lumière en rêve. Et il y a beaucoup de citations là-dessus, il est possible de réparation. Une chose que je tenais à révéler, c'est que la divine nous prête ce qu'on peut appeler la figure du héros. Vous savez, dans la littérature de la négritude, il y a beaucoup de héros, n'est-ce pas? Le roi Christophe, etc. Mais divine a son héros, c'est-à-dire, quel est le type de personnage qui a porté la révolution, n'est-ce pas? Qu'il propose. Alors, il met en scène, il y a beaucoup aimé ce passage, quelques jeunes gens qui veulent faire bouger les lignes, qui veulent faire changer les choses. Ils ont à leur tête un certain Yamda Célestin, et c'est à l'occasion des élections, je crois. Les anciens sont là, ils les guettent, et ils leur envoient des trucs, de l'argent, mais un argent comme piégé. C'est-à-dire que s'ils reçoivent cet argent, ils vont être envoûtés. Alors, ces jeunes gens qui sont aussi dans la localité savent que l'argent est envoûté et ils entreprennent un risque pour désenvoûter cet argent-là. Donc, la vidéo doit avoir l'argent, il veut l'argent, mais comme ils sont ancrés dans la tradition, ils font un risque pour désenvoûter l'argent. Je vous dis juste ça. Les jeunes, ayant à leur tête, et à leur célestin, invoquèrent l'esprit de justice connu sous le nom de Nadji pour leur protection avant de jurer sur le Coran. Ils agissent donc la tradition avec le Coran. Et il a déjà venu voir le Labino pour les envoûter, puis désenvoûter par le Nadji. Et s'est mis à acheter le Coran pour se jurer pour ce passage. Et c'est d'autant plus beau. Mais non seulement il bâtit comme un type d'homme, vous ne pouvez pas lire ça sans vous rappeler que l'auteur du livre s'appelle Nadjibel. Ça veut dire que le personnage qui nous propose comme le héros des temps modernes, lui-même est ce héros-là. Par nature, c'est son père qui l'a bâti comme ça, il appelle Nadjibel. Et moi, comme je suis aussi un rêveur comme lui, je me suis dit que j'allais demander à tous les intellectuels de mon âme qu'on devienne des nazis. Je vais dire un petit mot, je parle de quelque chose, vous avez vu, je ne suis pas entré dans les expressions du livre. Un petit mot sur la culture traditionnelle qui est abondante ici et qui demande des nouvelles des choses. Naturellement, il reconstitue. L'ontologie vous met en partie des proverbes que nous récitons tous. Je retiens un seul, s'il y en a tellement. Écoutez ça. La guerre disait, je connais. Et finalement, elle a fabriqué une ruche sans même. Alors qu'il y a la guerre, il y a la paix. La paix fait les ruches avec le miel, et la guerre fait les ruches sans miel. Mais les mots ont découvert que la guerre disait, je connais, et finalement,
elle ne connaissait pas. C'est un peu le caractère, comment dire, des gens orgueilleux, qui ne sont pas humbles, qui se laissent pas compter. J'ai aussi retenu là-dedans, de façon que moi, je ne savais pas pourquoi les Africains, même souvent, ne donnent pas les bonnes choses aux enfants. On est des aux enfants de manger les œufs, de manger la vie, de manger aussi. Et moi, je trouvais ça cruel puisque j'ai la mentalité occidentale. C'est dans le livre de Nagibert que j'ai bien découvert la valeur pédagogique extraordinaire de ces interdits, j'allais dire de gourmandise. C'est pour apprendre à l'enfant dès le bas âge à se retenir, de ne pas se jeter sur tout ce qui est intéressant. Parce que sinon, dans la vie courante de l'enfant, dès qu'il rencontrera une jolie femme, il va se jeter dessus alors que c'est un homme de jouer. Il faut qu'il apprenne à se retenir. Vous comprenez ça? Voilà donc l'itinéraire que je vais vous débat avec cette question. Je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce que vous avez retenu, mon fantastique pouvoir de Gabriel Nagibert, le mot de l'Ouest.